L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? On va se tenir debout, on va prier. Amen. C'est bon d'être avec vous encore ce soir. On veut continuer ce qu'on a débuté ce matin. Et je suis certain que le Seigneur a des bonnes choses en réserve pour nous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, quel privilège on a encore une fois ce soir de te louer, de t'adorer dans ce lieu. Et puis, Seigneur, on veut te demander l'onction de ton Saint-Esprit sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Seigneur, je te demande que cette parole soit tellement claire, tellement facile à comprendre ce soir, qu'elle peut toucher profondément chaque personne, qu'elle peut nous faire du bien, qu'elle peut changer notre vie. Et déjà d'avance, on te donne toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus que j'ai prié, tout le monde, on peut dire Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Je veux juste vous rappeler qu'il y a une table de CD, de DVD à l'arrière. Et puis, je vous encourage à vous procurer du bon matériel d'enseignement. Il y a beaucoup de productions concernant ce qu'on a prêché ce matin. Aussi ce que je vais partager avec vous ce soir. Et puis, vous pouvez nous visiter aussi sur notre site web, paindevie.org. Et puis, à tous les deux dimanches, vous avez une nouvelle émission de télévision qui est ajoutée sur notre site. Et puis, ces émissions sont un peu partout, diffusées en Europe, dans beaucoup, beaucoup de pays francophones en Afrique. Et même plusieurs émissions sont traduites en plusieurs dialectes pour rejoindre des pays au sud du Sahara, ce qui nous permet de rejoindre des millions de francophones potentiellement autour du globe. Et on s'attend à une grande, grande moisson dans ces derniers jours, comme la parole de Dieu nous l'a promis. Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, on veut continuer. Ce matin, on a parlé concernant le roi de gloire qui revient bientôt. Et puis, on a mentionné plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes persuadés que c'est vraiment bientôt le retour de ce roi de gloire et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre avec tous les rachetés de l'Éternel de toutes les générations, alors que nous allons régner avec lui sur un monde complètement nouveau. Vous savez, la terre, dans la condition où elle est présentement, c'est loin d'être la volonté de Dieu. Parce qu'au tout début, quand Dieu a placé le premier homme et la première femme, il les a placés dans un jardin qui s'appelle le jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire délice. C'était un jardin de délice. Et il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien de mauvais. C'était le paradis sur la terre. Et quand le péché est arrivé, il y a eu les conséquences de ce péché-là qui a multiplié alors que la population mondiale grandissait et se multipliait aussi. Mais un jour, très bientôt, le paradis va revenir sur cette terre. Alléluia! Et dans ce monde nouveau, nous allons être là, dans notre corps ressuscité, et nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis encore une fois, ça va redevenir comme c'était au tout début, sans péché, sans pollution, sans crime. Il n'y aura plus un seul hôpital, comme le pasteur disait, parce qu'il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus de prison, parce qu'il n'y aura plus de malfaiteurs. Il n'y aura plus de bien-être social ni d'assurance chômage parce que tout le monde sera prospère. Alléluia! Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu sera parfaitement accomplie sur cette terre. Gloire à Dieu! Mais en attendant, on a besoin de regarder la parole de Dieu ce soir afin d'être encouragé et de réaliser encore une fois que nous vivons des temps vraiment particuliers. Vous savez, depuis 2012, on a beaucoup parlé de l'année 2012. Particulièrement du 21 décembre 2012, où le monde pensait que ce serait la fin du monde. Mais évidemment, on savait par la parole de Dieu que ça ne pouvait pas être la fin du monde. Mais prophétiquement parlant, c'est une année butoir, une année marquante, 2012, parce qu'elle marque le début d'un corridor de quelques années jusqu'en 2017, où beaucoup d'événements prophétiques vont se produire. Et c'est pourquoi on a besoin d'être informé par la parole de Dieu, parce que la Bible, je pense, c'est tout près d'un tiers de ce livre-là, ça concerne des prophéties, des choses qui sont annoncées d'avance comme devant se produire. Et parce que la Bible est une source infaillible, c'est pas comme les devins ou les astrologues ou les gens qui se permettent au début de chaque année de faire leurs prédictions pour l'année qui débute, tous ces gens-là se gardent toujours une marge d'erreur. parce que c'est humain. Mais nous avons une source, il n'y a pas de marge d'erreur. Nous avons une source infaillible, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu déclare quelque chose comme devant se produire à l'avenir, bien, vous êtes certain que ça va arriver, parce que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Alors, prenez votre Bible ce soir, puis on va tourner dans 2 Pierre. Et justement, on va lire un passage qui nous affirme que la parole prophétique, c'est une parole certaine. 2 Pierre, 1er chapitre, verset 19 jusqu'à 21. L'apôtre Pierre dit ceci, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors déjà, la Bible nous déclare ici que la parole prophétique, c'est une parole certaine. On peut se fier à ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce que c'est certain. Si c'est déclaré dans les Écritures, c'est certain que ça va s'accomplir au temps où ça doit s'accomplir. Et dans votre Bible, vous avez des centaines de prophéties, vraiment. Mais il y en a certaines qui sont plus grandes, si vous voulez, ou plus importantes que certaines autres. Et il y en a deux tout particulièrement qui sont très importantes. Et c'est curieux parce que les deux se trouvent dans un même livre, le livre de Daniel. Vous savez, ce sont des livres précieux. Daniel et Ézéchiel sont deux livres que vous devez lire en harmonie avec le livre de l'Apocalypse. Parce que ce sont des livres complémentaires, ça se complète. Vous avez des informations en Daniel, des informations dans Ézéchiel que vous n'avez pas dans le livre de l'Apocalypse. Mais si vous faites l'harmonisation de ces livres-là, vous avez une image pas mal complète concernant les prophéties des derniers jours. Et c'est toujours impressionnant, je me souviens, il y a plusieurs années, vous savez, lorsqu'il y a eu la première crise du golfe Persique, les gens avaient peur, pensaient que c'était la fin du monde. Puis le réseau, l'ancien réseau de télévision TQS, ici à Montréal, avait fait une émission spéciale en studio avec des invités, des gens qui venaient assister à l'enregistrement de l'émission. Et puis, ils avaient demandé à 4 ou 5 représentants de 4 ou 5 organisations pour partager leur point de vue concernant la guerre du golfe Persique. Et on m'avait demandé pour représenter le point de vue évangélique, le point de vue biblique. Et je suis allé dans le studio de TQS pour l'enregistrement de cette émission. Puis il y avait, ce sont 4 ou 5 personnes avec moi sur le panel. Il y en avait un, j'étais surpris, je ne savais pas que ça existait au Québec. C'était le président des sceptiques incorporés du Québec. Bon, avec lui, on n'avait pas de problème, il croyait en rien puis il doutait de tout. Mais alors, l'animateur commence, vous savez, avec le premier, puis lui demande ce qu'il pense de la guerre du golfe Persique et ainsi de suite. Et quand je suis rendu à moi, j'ai vraiment étonné, il y avait peut-être 100 de personnes dans le studio, puis j'ai capté tout de suite l'attention de ces gens-là en leur disant que j'avais apporté avec moi, j'avais, autrement dit, de l'information privilégiée, parce que j'avais apporté avec moi 2 livres qui ont été écrits il y a très longtemps par des gens qui vivaient en Irak, qui s'appelaient Babylone, vous savez, autrefois, et qui ont écrit des choses concernant ce qui se passe présentement. Alors, je vous garantis, c'est comme si j'avais appuyé sur un bouton et si le monde, il y avait des gens distraits dans la salle, il n'y avait plus personne de distrait. C'est comme tous les yeux sont fixés sur moi comme des points d'interrogation en voulant dire, mais de quel livre tu parles? Qui a écrit des livres concernant ce qui se passe aujourd'hui? Et même l'animateur lui-même semblait étonné. Je voyais ça dans son regard et il avait hâte de me poser la question, mais de quoi vous voulez parler, M. Massicotte? Bien, j'ai dit avec moi, j'ai ces 2 livres-là. Et j'ai pris ma Bible, et j'ai le livre de Daniel et le livre d'Ézéchiel, parce que c'était des contemporains qui vivaient à la même époque. Et tous les deux ont été déportés à Babylone. Et tous les deux ont prophétisé des choses que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'il a réalisé que je parlais de la Bible, Il dit, c'est très bien, M. Mascott, il a passé à une autre personne. Parce que vous savez, quand on commence à parler de la Bible dans les milieux séculiers, c'est comme on est dangereux. Parce que, écoute, c'est un livre dangereux aussi, la Bible. Amen. Tu sais, tu va-t'en au McDonald's avec une grosse Bible, puis toutes les tables autour de toi sont vides. Tu sais, tu peux emmener des livres d'université ou d'un collège, puis il n'y a pas de problème. Mais une grosse Bible au McDonald's, ils ont peur de toi. Parce que c'est un livre dangereux. Écoute, tu commences à lire là, t'es en danger d'être sauvé. T'es en danger d'être guéri. T'es en danger d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est vraiment un livre spécial que nous avons ce soir. La parole de Dieu, la Bible. Les paroles prophétiques. Et il y a deux grandes prophéties, justement, dans le livre de Daniel. La première concerne toute l'histoire des différentes puissances mondiales qui vont se succéder au contrôle mondial à partir du moment où Israël avait été déporté à Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre qui n'est pas encore arrivé de façon physique, visible, littérale. Puis la deuxième grande prophétie, c'est dans Daniel chapitre 9, versets 25 à 27, c'est l'histoire du peuple juif à partir aussi du moment de la déportation à Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Celle qui va nous intéresser ce soir, c'est la première, l'histoire des nations qui vont se succéder au contrôle mondial à partir de Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et rapidement, on va faire un tour d'horizon et vous allez constater vraiment ce que Pierre a dit dans son épître. C'est vraiment vrai, c'est une parole prophétique certaine, entièrement digne d'être reçue. Parce que il y a 2600 ans passés, Nabuchodonosor, qui est roi de Babylone, a envahi le royaume de Juda dans le sud d'Israël et il l'a emmené captif. Il a détruit la ville, détruit le temple, pris les vases, les instruments du temple, transporté ça à Babylone dans son empire et aussi il a amené captif la population et il a sélectionné parmi la population certaines jeunes personnes qui semblaient être brillantes, plus intelligentes. Et il les a inclus dans son conseil privé. Et puis, Daniel faisait partie de ces jeunes qui ont été choisis pour faire partie du groupe des anciens conseillers devins qui conseillaient Nabuchodonosor. Et une bonne nuit, M. Nabuchodonosor s'est couché comme d'habitude, puis il se réveille le matin, puis il sait qu'il a rêvé. Alors, il fait venir tous ses devins, ses conseillers, et puis il leur dit, écoutez, messieurs, j'ai fait un songe cette nuit et je voudrais que vous puissiez m'en donner l'interprétation. Alors, ils ont dit quelque chose comme, il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'on est payé. Dis-nous à quoi tu as rêvé et on va te donner l'explication. Bien, dis-je, j'ai un deuxième problème. Je sais que j'ai rêvé, mais je ne me souviens plus à quoi j'ai rêvé. Alors, non seulement je voudrais que vous m'expliquiez mon songe, mais je voudrais que vous me disiez, c'est quoi ce songe que j'ai fait? Alors là, ils ont dit, écoute, Nabuchodonosor, il n'y a personne sur la planète qui peut te dire ça. Dis-nous à quoi tu as rêvé, on va te donner la signification, mais de là à te dire, c'est quoi ton rêve, à quoi tu as rêvé, il n'y a personne sur la planète qui peut te dire ça. C'est au-delà de nos capacités. Alors, parce qu'il est roi, il a certains privilèges. Il a dit quelque chose comme, écoutez, les gars, je vous donne tant de jours pour trouver c'est quoi mon rêve, puis m'en donner une interprétation. Sinon, je coupe vos têtes sur vos épaules. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une très bonne motivation pour chercher très fort c'était quoi ce fameux rêve-là. Et Daniel n'était pas là la journée où le roi a demandé ça à ses anciens et il entend parler de la sentence sévère du roi et il s'informe vis-à-vis des autres personnes pourquoi la sentence du roi est si sévère, parce que sa tête aussi va être coupée. Et on lui explique la situation. Et Daniel dit, « Est-ce que vous voulez que je prie mon Dieu? » Et ils ont dit quelque chose comme, « Oui, ça presse, prie ton Dieu. » Vous savez, quand les gens sont jeunes, en santé, puis ils ont de l'argent, ils n'ont peut-être pas besoin de vos prières. Mais quand le médecin dit, « C'est le cancer, puis il vous reste 3 mois à vivre, puis t'offres la prière, ils sont plus enclins à accepter ta prière que lorsqu'ils n'ont pas de problème. » Alors, ils ont dit, « Oui, Daniel, prie, parce que c'est nos têtes qui sont en jeu. » Et comme vous savez, Daniel a prié. Et effectivement, Dieu lui a révélé quel était le songe du roi Nabuchodonosor. Et non seulement il lui a révélé quel était le songe, mais il en a donné la signification. Alors, tout le monde est bien heureux et on va conduire Daniel devant Nabucodonosor. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir le trône de Babylone à l'époque, le trône de Nabucodonosor. Mais déjà de se tenir devant lui, c'était impressionnant, parce que lui-même était assis sur un trône très élevé, sur des gradins. De chaque côté de lui, il y avait ces deux énormes lions qui étaient l'emblème de Babylone à l'époque. Et puis, de chaque côté de l'allée principale, tu as tous ces soldats armés jusqu'aux dents. Et tu te présentes dans l'allée devant lui, entouré de ses soldats, et tu le regardes de haut comme ça. Et il y a juste à faire ça, puis tu n'existes plus. Alors, ça prenait déjà du courage pour que Daniel se présente devant lui et lui donne cette prophétie-là. Alors, il est là devant Nabucodonosor, puis il dit, « Oh, roi Nabucodonosor, voici ce que Dieu m'a révélé. Tu as rêvé, voici, c'est quoi ton rêve? Tu as vu une grande statue. » Que peut-être on peut voir sur l'écran, si c'est possible. Une grande statue. Et c'est comme Nabucodonosor a fait, « Oui, oui, ça me revient. Oui, c'est ça, j'ai rêvé. J'ai vu une grande statue. » Et c'est cette statue-là qu'il a vue. Et là, il dit, « Je vais te donner l'interprétation de ce songe-là. » Il dit, « La tête d'or, c'est toi, Babylone. Tu es présentement à la tête des nations, puis il n'y a pas plus grand roi que toi sur la planète. » Jusque-là, ça va bien. Tu sais, pas de problème. Mais Daniel va continuer en lui disant, « Mais tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, parce qu'un autre empire vient et va te renverser, et il va nommer plus tard celui des Perses et des Mèdes. » Maintenant, écoute bien, à l'époque, les Perses et les Mèdes ne sont même pas unis ensemble. Alors, ce n'est pas une menace. C'est loin d'être une puissance mondiale qui peut renverser Babylone. De toute façon, à l'époque d'Nabucodonosor, Babylone était considérée comme imprenable. C'était une ville fortifiée. C'était l'empire mondial connu de l'époque. La ville elle-même de Babylone, on dit que la muraille qui entourait la ville était tellement large qu'on pouvait se promener à 7 chars de large sur la muraille. Totalement imprenable. Mais les années ont passé, et puis Nabucodonosor est mort, et c'est son petit-fils qui règne, Belshazzar, si vous vous souvenez, dans le livre de Daniel, qui, un bon jour, décide de faire une grande réception. Et pendant la réception, tout va bien, les gens commencent à rire, à boire, à raconter des histoires, et Belshazzar dit, « J'ai une idée formidable. » Il dit, « Je me souviens que mon grand-père, quand il a envahi Jérusalem puis il a détruit le temple, il avait ramené des vases supposément sacrés, consacrés justement au supposé grand Dieu d'Israël, que nous avons vaincu. On a été victorieux. » Puis il dit, « Ça serait bien si on irait chercher ces vases-là, ils sont sûrement quelque part ici dans le royaume, et qu'on s'enivrait davantage, qu'on mettrait de la boisson dans ces vases-là supposément sacrés, et qu'on fasse du fun avec ça, et qu'on s'enivre davantage. » Et tout le monde a trouvé que c'était une super bonne idée. Mais ce n'était pas vraiment une bonne idée. Ils ont trouvé les vases, ont rempli ces vases-là d'alcool, et pendant que les gens sont à peu près à moitié ivres, dans la salle de réception, soudainement, il y a une extrémité de main qui apparaît dans les airs, qui flotte dans les airs, qui se dirige vers un mur et qui écrit 3 mots dans une langue que personne ne connaît. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça dégrise une foule très rapidement. Ils ont tellement peur, écoute bien ce qui est arrivé, ils ont tellement peur que les reins de Belshazzar l'ont lâché. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. On n'a pas tous les détails, mais ça ne devait pas être beau quand les reins lâchent quelqu'un. Ces reins l'ont lâché. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire, parce que ça va revenir dans quelques instants. Alors, ils ont peur. C'est la panique dans la salle de réception. Personne ne comprend parce que c'est écrit dans une langue étrangère que personne ne comprend. Et quelqu'un se souvient que Daniel, il y a plusieurs années passées, avait trouvé l'énigme du songe du roi Nabucodonosor. Il en avait donné l'interprétation. Alors, quelqu'un dit, « Il faut trouver Daniel. C'est le seul qui peut nous dire c'est quoi ce message que l'extrémité de main a écrit sur le mur. » Alors, on a trouvé Daniel et Dieu lui a donné l'interprétation. Et vous savez ce qui est écrit dans le livre de Daniel, « Compter, peser, trouver léger. » Bien, durant cette même nuit-là, où on s'enivrait dans cette salle de réception, les Perses et les Mèdes avaient fait une alliance, s'étaient unis, et puis ils avaient bâti un barrage sur le fleuve Euphrate, qui était le fleuve qui passait en dessous de la muraille de la ville de Babylone pour l'alimenter en eau potable. Ils ont asséché le fleuve, et pendant cette même nuit-là, ils ont passé en dessous de la muraille et ils ont surpris l'armée babylonienne qui n'était vraiment pas prête parce que la plupart des soldats étaient ivres. Et ils ont renversé dans cette même nuit-là le gouvernement babylonien et c'est devenu le deuxième empire mondial après Babylone, l'empire des Perses et des Mèdes. Maintenant ça, c'était prophétisé dans votre Bible avant que ça arrive des années et des années et des années avant que cette victoire-là arrive pour les Perses et les Mèdes. Premièrement, c'est dans Ésaïe, chapitre 44 et au verset 26, qu'on trouve la première prophétie concernant la victoire des Perses et des Mèdes. Et ça dit ceci, et c'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, je relèverai leurs ruines. » Pourquoi? Parce que Nabuchodonosor a détruit Jérusalem, et les villes de Juda, mais l'Éternel dit par son prophète Ésaïe, il dit, Jérusalem va être rebâtie, puis je vais rebâtir les ruines des villes de Juda. Et au verset 28 du même chapitre, il continue et il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira ma volonté. Mais un instant, Dieu parle de Cyrus ici, mais Cyrus, à ce moment-là, n'existe même pas. Il n'est pas encore né, ce monsieur-là. Ça va prendre à peu près 150 ans avant que Cyrus vienne au monde. Et c'est Cyrus qui a amené cette grande victoire-là des Perses et des Mèdes en cette nuit-là où Belshazzar avait donné ce grand festin-là. Hey, à peu près 150 ans auparavant, Dieu savait qu'un homme viendrait au monde. Non seulement il savait qu'il viendrait au monde, mais il savait qu'on l'appellerait Cyrus. Et non seulement il savait qu'il s'appellerait Cyrus, mais que Dieu était pour l'utiliser pour le retour de son peuple vers Israël pour la reconstruction de Jérusalem et des villes de Juda. Tant qu'à servir un Dieu, c'est un Dieu comme ça que j'aime servir. Alléluia! Et il ajoute ceci, non seulement, écoute, non seulement il sait que cet homme va naître un jour, non seulement il sait son nom, mais ça dit dans la suite du verset, « Et voici ce qu'il dira. » Wow, l'Éternel sait 150 ans d'avance ce que cet homme va déclarer. Et voici ce qu'il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. Et si vous connaissez votre Bible, c'est exactement ce qui est arrivé. Cyrus a donné l'ordre de reconstruction de la ville de Jérusalem et de la reconstruction du temple qui s'est faite sous le temps de Néhémie et d'Esdras. Mais Dieu l'avait annoncé à peu près 150 ans avant que ce monsieur-là vienne au monde sur cette planète. Au chapitre suivant, chapitre 45, verset 1 d'Ésaïe, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, regardez bien, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. » Exactement ce qui est arrivé 150 ans plus tard à Belshazzar, comme je viens de vous raconter, et pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient point fermées. Verset 4, « Je t'ai appelé, dit l'Éternel, par ton nom, et je t'ai parlé avec bienveillance avant même que tu me connaisses. » Alors, écoute, quand tu as une parole prophétique qui est donnée dans la Bible, dans la parole de Dieu, tu peux aller à la banque avec ça, parce que c'est sérieux, c'est vrai, et ça va se produire, parce que c'est Dieu qui l'a déclaré, comme vous avez un exemple frappant ici. Puis Daniel continue, puis il dit, « Les Perses et les Mèdes ne seront pas là toujours non plus, puisqu'un troisième empire mondial va venir, et il le nomme avant même qu'il existe. » Il dit, « Le royaume de Javan va venir. » Si vous regardez dans un dictionnaire, Javan, c'est l'ancien nom de la Grèce. Et qui n'a pas entendu parler des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui a conquis le monde connu à l'époque, et qui a fait de Babylone sa capitale, et il a renversé l'empire des Perses et des Mèdes, et c'est devenu le troisième empire mondial après Babylone, tel que Daniel l'a annoncé par voie prophétique à Nabuchodonosor il y a 2600 ans passés. Puis, dans les chapitres suivants, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, jusqu'au chapitre 11 de Daniel, Daniel a eu plusieurs autres songes, visions, visitations angéliques qui lui ont donné d'autres informations concernant les prophéties. Et c'est ainsi qu'il a appris que l'empire de la Grèce ne restera pas toujours non plus, puisqu'un quatrième empire devait venir, celui de Rome, qui était symbolisé par les deux jambes de la statue des jambes de fer. Et Daniel a compris aussi par d'autres révélations que ce quatrième empire-là ne restera pas toujours non plus, mais il va comme disparaître de la circulation pour très longtemps. Et là, il va prophétiser que dans les derniers jours, dans les derniers jours, ça nous concerne, dans les derniers jours, ce quatrième empire qui a comme disparu de la circulation politique va refaire surface, mais sous une forme différente, sous la forme des 10 orteils de la statue, qui vont s'unir ensemble par des alliances humaines et qui sont représentées comme du fer qui s'allie avec de l'argile. Et Daniel dit, comme le fer ne tient pas bien avec de l'argile, ce dernier empire va être à la fois fort et à la fois faible. Et là, Daniel va nous expliquer que lorsque ces 10 orteils ou 10 royaumes de la fin seront unis pour former un gouvernement mondial par des alliances humaines, il a vu une pierre se détacher sans le secours d'aucune main qui a frappé la statue, a mis la statue en place, et il a vu la pierre grandir, grandir, grandir et devenir aussi grande que la planète Terre. Et il dit, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait partout sur la planète. Alléluia! Alors écoute bien ce soir. On n'est plus au temps de Babylone, ça fait 2600 ans penser que la tête n'existe plus. On n'est plus à l'époque des Perses et des Mèdes, les épaules, la poitrine de la statue, ça fait longtemps que c'est terminé. On n'est plus à l'époque de la Grèce, le ventre de la statue, c'est parti depuis longtemps. On n'est même plus à l'époque de l'Empire romain. Vous savez, il y a 2000 ans passé, quand Jésus est venu dans ce monde, c'était l'Empire romain qui contrôlait le monde connu. Parce que à qui Israël payait-il des taxes? À Rome. Mais ça fait longtemps, ça fait presque 2000 ans que le royaume romain est disparu, symbolisé par les deux jambes de la statue, côté est, côté ouest. Vous savez, il y a eu cette division dans les années 300 quelques, au début des années 400, dans le royaume de Rome, côté est, côté ouest. Rome est restée la capitale de l'Empire du côté ouest et Constantinople est devenue la capitale byzantine du côté est, qui est aujourd'hui connue sous le nom d'Istanbul en Turquie. Alors, déjà, c'est de l'histoire passée. À l'époque où nous sommes, durant notre génération, alors que nous sommes vivants ce soir, nous sommes à l'époque de la formation des 10 orteils de la statue. Qui, selon la prophétie qui ne s'est pas trompée d'un iota jusqu'ici, depuis 2600 ans, lorsque ces 10 royaumes seront formés, la pierre, qui est le royaume de Dieu, vous savez, Jésus est la pierre, que l'apôtre Pierre a dit, « Vous qui bâtissez, vous avez rejeté, mais c'est lui la pierre. » Bien, c'est le royaume de Dieu qui s'établit sur la terre et qui ne pensera jamais. Alléluia! Alors, on est exactement là. Puis, tu sais, des fois, nous, le Seigneur a dit à un moment donné que les gens du monde, souvent, sont plus sages que les enfants de Dieu. Puis, je me dis, il y a quelques années passées, j'étais à Paris, puis j'enseignais justement sur ces thèmes-là. Puis c'était l'année où il y a eu l'ajout de certains pays dans l'Union européenne, plusieurs pays de l'Europe de l'Est qui s'ajoutaient à l'Union européenne. Et c'était une grande fête en Europe, puis il y avait des émissions de télé spéciales. Puis après ma réunion le soir à l'hôtel, je regardais toutes ces cérémonies-là à la télévision, parce qu'à minuit précisément, ces nouvelles nations était ajouté dans l'Union européenne, puis il y avait ces feux d'artifice et beaucoup de joie. Et après cette cérémonie à minuit, il y avait un panel de discussion avec différentes personnalités qui parlaient justement sur l'Union européenne. Et il y en a un en particulier qui m'a vraiment étonné, puis je me suis dit, waouh, c'est des gens qui manifestement ne sont pas sauvés, ne connaissent pas les prophéties de la Bible, mais sont tellement allumés sont tellement vite pour la compréhension qu'ils nous dépassent souvent. Parce qu'il y a un de ces panélistes qui dit, il ne faut pas oublier que si nous voulons recréer l'ancien empire romain tel qu'il était autrefois, au niveau politique, économique et religieux, il dit, il va falloir que l'Union européenne s'étende jusqu'au-delà de la Méditerranée. Parce que, dit-il, souvenez-vous, l'ancien empire romain comprenait plusieurs pays au-delà de la Méditerranée, comme Israël, l'Égypte, la Syrie, qui n'existait pas sous le nom de la Syrie à l'époque, mais ce territoire-là faisait partie de l'ancien empire romain. Et c'est là qu'on reconnaît la division de la statue de Daniel, les deux jambes, côté est, côté ouest. Il y a 5 orteils à l'ouest et il y a 5 orteils à l'est, dans la formation des 10 royaumes de la fin. Ça veut dire qu'il y a d'autres changements qui vont arriver dans l'Union européenne rapidement, et il y a d'autres changements qui vont arriver du côté est de la Méditerranée, parce qu'il y a comme une association qui va se faire entre l'est et l'ouest pour former ce dernier empire mondial, duquel l'Antéchrist va sortir et va régner sur cette terre pendant les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. Alors, écoute, on est rendu là. On n'est pas ailleurs, on est à la formation des 10 orteils de la statue et ça peut se produire très rapidement maintenant et c'est la fin. Il n'y a plus d'autre chose après la formation de ces orteils-là. C'est la pierre qui est détachée sans secours d'aucune main puis met en pièces toute la statue. C'est le royaume de Dieu qui s'installe sur la planète. Whew! Alors, si vous avez ajouté ce qu'on a prêché ce matin, on réalise qu'on est vraiment, vraiment rendu à la fin dans les derniers jours. Et si c'était comme pas assez pour nous convaincre, bien, depuis déjà quelques temps, on entend beaucoup prêcher sur beaucoup de phénomènes qui se produisent dans le ciel pour confirmer qu'on est vraiment rendu à la fin. Et ce n'est pas étonnant parce que, au tout début, si vous allez dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, c'est premier chapitre, verset 14, Dieu dit qu'il a placé des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et il dit que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, pour marquer les époques, le temps. Et le mot hébreu, c'est Oth, O-W-T-H, qui signifie aussi avertissement, warning. Donc, ce qui se passe dans le soleil, la lune, les étoiles, quand il y a des choses bizarres, des signes, des phénomènes, ce n'est pas juste pour marquer le jour, la nuit, c'est aussi pour marquer les époques. Et c'est aussi un avertissement, autrement dit, Dieu nous parle par des phénomènes qui se produisent dans le ciel. Joël nous a dit qu'avant le grand jour du Seigneur, le soleil va s'obscurcir et la lune va se changer en sang. Jésus lui-même nous a dit dans Luc chapitre 21, il y aura à la fin des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Alors, ça veut dire que s'il se passe quelque chose d'inhabituel dans le système solaire, dans la lune et dans les étoiles, c'est un avertissement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et là, on est averti qu'il y a une tétrade lunaire qui va se produire cette année, 2014 et 2015, qui tombe sur 2 fêtes juives, la fête de la Pâque juive et la fête des tabernacles, la Pâque au printemps et la fête des tabernacles à l'automne. Et ça va se reproduire la même chose en 2015. Il y a une éclipse lunaire totale qui va se produire à la fin de la Pâque aussi 2015. Il y a une éclipse lunaire totale qui va se produire à la fin des tabernacles 2015. Alors, tu as 4 éclipses lunaires. En anglais, ils appellent ça « a blood moon ». La lune devient comme rouge, comme du sang, tel que c'est prophétisé dans votre Bible. Et c'est un phénomène très rare. Il y a souvent des éclipses partielles lunaires ou totales lunaires ou éclipses solaires partielles, éclipses solaires totales. Mais le fait qu'il y a 4 éclipses lunaires qui tombent sur 2 fêtes juives, 2 années consécutives, c'est déjà un phénomène très rare. Parce que les 2 dernières fois que ça s'est produit, c'est en 1948-49, création de l'État d'Israël et guerre de l'indépendance. La dernière fois que ça s'est produit, 1967-68, la guerre des six jours, libération de la ville de Jérusalem. Et ça va se produire à nouveau cette année, au mois d'avril, la même chose à l'automne, la même chose au printemps 2015, la même chose au printemps, à l'automne plutôt, 2015. 4 éclipses lunaires qui tombent sur les deux fins de juillet, qui est un phénomène très rare. La première éclipse lunaire va arriver le 4 avril de cette année, le 15 avril, pardon, de cette année. La deuxième, le 9 octobre de cette année. Ensuite, l'année prochaine, 2015, le 4 avril 2015, à la fête de la Pâque, il y a un autre blood moon. Et le 28 septembre 2015, encore une éclipse lunaire totale qui tombe exactement sur la fête des tabernacles à l'automne 2015. Alors déjà, ça nous avertit qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël parce que les éclipses lunaires ont toujours rapport avec Israël. Les éclipses solaires ont rapport avec les nations du monde, mais les éclipses lunaires, c'est toujours avec Israël parce que le calendrier de Dieu est basé sur les cycles lunaires. De 30 jours par mois, c'est pour ça que les années bibliques, c'est toujours 360 jours par année au lieu de 365. Et c'est toujours le calendrier basé sur le cycle de la lune. Toutes les fêtes de l'Éternel sont basées sur le cycle de la lune. Et lorsqu'il y a une éclipse lunaire, et surtout double éclipse lunaire qui tombe sur deux fêtes juives, attendez-vous à ce qu'un événement important arrive en Israël. Parce que jusqu'à présent, ça n'a jamais fait défaut. Alors, pourquoi ça ferait défaut à ce moment-ci? On n'a aucune raison de croire que ça n'y a pas, qu'il n'y aura pas un événement marquant, parce que c'est un phénomène vraiment très rare. Et c'est Dieu qui est en contrôle de ces choses-là. Tu sais, ce n'est pas les humains, ce n'est pas la NASA qui est en contrôle de ça. C'est Dieu qui est en contrôle des astres. Et puis, ça n'a jamais manqué jusqu'à présent. Maintenant, ce qui est encore plus rare, c'est qu'au milieu de cette tétrade lunaire de 2014-2015, il y a deux éclipses solaires en plein milieu. Durant l'année 2015, deux éclipses solaires, une totale et une partielle, en 2015. Puis la première, c'est vraiment bizarre, va tomber le premier du mois de Nissan, qui va correspondre à notre mois de mars 2015. Et le premier du mois de Nissan, c'est le début de l'année religieuse en Israël. L'année religieuse commence toujours le premier du mois de Nissan, qui correspond à peu près à notre mois de mars, à nous, et il y a une éclipse totale solaire le premier du mois de Nissan. Et la deuxième éclipse solaire, la même année, tombe exactement le premier du mois de Tishri, qui est la fête des trompettes, le Rosh Hashanah. Vous dites, waouh, c'est vraiment spécial, parce que ça ne peut pas être organisé par quelqu'un, là, ça ne peut pas être juste un hasard. Tu as 4 éclipses lunaires de suite, puis 2 éclipses solaires, qui tombe exactement sur le début de l'année religieuse et le début de l'année civile en Israël en 2015. OK, ça n'a pas l'air de vous impressionner, alors je vais aller plus loin. En plus de la tétrade lunaire, en plus des deux éclipses solaires qui tombent sur le début de l'année religieuse et le début de l'année civile, le 23 septembre 2017, c'est la fête de Rosh Hashanah, le premier du mois de Tishri, la fête des trompettes. Et la constellation qui va être au-dessus de la ville de Jérusalem, c'est, peut-être qu'on peut le voir sur l'écran, la constellation de la Vierge, avec la lune sous ses pieds, enveloppée du soleil, avec 12 étoiles autour de sa tête. Maintenant, écoutez bien. Le diable a perverti ces choses-là pour tomber dans l'horoscope et la prédiction de l'avenir et ainsi de suite. Ça, c'est diabolique. On ne touche pas à ça. Mais les constellations, c'est Dieu qui a placé ça dans le ciel. Et si vous lisez les bons livres là-dessus, vous allez voir, vous avez toute l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ écrite dans le ciel, dans les constellations, depuis la naissance du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son règne futur comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et le 23 septembre 2017, qui est le jour précisément de la fin des trompettes de cette année-là, c'est la constellation qui va se retrouver dans le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem. Maintenant, écoutez bien. Si vous allez dans Apocalypse, chapitre 12, et au premier verset, il est écrit ceci. « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » C'est écrit dans votre Bible. « Un grand signe parut dans le ciel, une femme avec le soleil autour d'elle, la lune sous ses pieds, et 12 étoiles autour de sa tête. » 23 septembre 2017, la fête des trompettes, Rosh Hashanah. Maintenant, écoute bien. Je ne sais pas si ça a un rapport exact avec Apocalypse chapitre 12, mais ça se ressemble. C'est bien écrit qu'il y a un signe qui paraît dans le ciel. Puis, de façon astronomique, c'est certain, ça. Tu peux aller maintenant avec Internet, tu peux aller sur certains sites et voir toutes les constellations n'importe où dans le monde des années d'avance, si tu veux. C'est comme ça qu'on peut voir que le 23 septembre 2017, c'est cette constellation-là qui va être au-dessus dans le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem. Alors, peut-être ça n'a pas rapport avec Apocalypse chapitre 12. Peut-être ça a rapport avec Apocalypse chapitre 12. Si ça a rapport avec Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, on est exactement au milieu des 7 années de tribulation. 3 ans et demi de chaque côté des années de 360 jours au lieu de 365 jours. Si on est en plein milieu des 7 années de tribulation dans le 12e chapitre et tu remontes 3 années et demi auparavant, devine où tu arrives, à la première éclipse lunaire au mois d'avril de cette année. Ah, c'est pour ça que je vous dis 2014, 2015, 2016, 2017 sont des années très importantes au point de vue prophétique. Et si j'ai un conseil à vous donner ce soir, c'est de vous mettre en règle avec le Seigneur le plus rapidement possible pour traverser ces années-là. Alléluia! Parce que je ne peux pas vous dire de façon certaine ce qui va arriver, mais c'est certain qu'il va arriver quelque chose, parce que ça ne peut pas être des hasards, ça ne peut pas être des coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu, surtout avec les as, parce que c'est Dieu qui contrôle ces choses-là. Alors, il y a quelque chose qui est dans l'air, parce qu'écoute, le dernier voyage qu'on a fait en Israël, c'est en avril de l'année passée. Puis, comme d'habitude, on fait toujours, bien sûr, Megiddo. Sur le sommet de Megiddo, on a une vue magnifique sur la vallée de Jézréel. C'est là que des représentants des armées du monde, selon la Bible, vont se rassembler un jour pour la fameuse bataille d'Armageddon, le dernier conflit mondial. La bataille n'aura pas lieu dans la vallée de Jézréel, c'est juste le lieu de rassemblement des nations, des armées du monde, qui vont monter sur Jérusalem pour essayer de détruire une fois pour toutes la ville et la construire. Et à chaque année, je donne un enseignement sur le sommet de Megiddo au groupe qui est avec nous. C'est toujours bien apprécié parce que quoi, c'est une chose de prêcher sur Armageddon dans une église, mais quand tu es là sur les lieux, c'est différent. Alors, les gens apprécient toujours. Alors, cette année, dans l'autobus le matin qui quittait l'hôtel vers Megiddo, j'étais assis à côté d'un membre de notre équipe qui organise ces voyages-là. Puis c'est un frère qui est un intercesseur pour nous, puis qui souffle le chauffeur. Et j'ai dit, c'est curieux, j'ai dit, dans tous les voyages que tu as fait avec moi, tu n'as jamais soufflé le chauffeur sur Megiddo. Mais j'ai dit, j'aurais à cœur cette année que tu puisses sonner le chauffeur au-dessus de la vallée de Jézréel à Megiddo. Il dit, c'est curieux que tu me dises ça, parce qu'il dit, cette nuit, le Seigneur m'a réveillé, puis il m'a dit, cette année, tu vas souffler le chauffeur à Megiddo. C'est une confirmation pour lui. Alors, on s'est rendu à Megiddo, et puis comme d'habitude, j'ai donné mon enseignement au groupe qui était avec nous. Et quand j'ai terminé, mon frère a pris le chauffeur, et puis, il s'est placé devant la vallée de Jézréel sur le sommet de Megiddo et il a sonné dans le chauffeur. Et quand il a sonné dans le chauffeur, vous savez, le chauffeur, c'est un instrument spécial. Ce n'est pas comme une guitare ou un piano. C'est vraiment quelque chose, quand c'est vraiment fait selon l'onction du Saint-Esprit, il te passe des frissons en quelque part parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu utilise. Et quand il a soufflé dans le chauffeur au-dessus de la vallée de Jézréel, je ne vous mens pas, il y a comme une onction qui est tombée sur nous. on ne pouvait plus bouger. Le silence s'est fait sur le sommet de la montagne de Megiddo. Et au début, je pensais qu'il y avait juste nous en avant, les membres de notre équipe, qui ressentaient ça. Mais dans le silence qui s'est fait, tout à coup, j'entends des sanglots derrière moi. Je me retourne et tout le monde, ou à peu près dans le groupe d'une cinquantaine de personnes que nous étions, ont ressenti eux aussi la même onction qui est tombée sur tout le groupe, ou presque. Puis la meilleure façon que je peux vous décrire ce qu'on a ressenti à ce moment-là, c'est comme une onction de compassion pour Israël. Comme si on ressentait qu'Israël était pour entrer dans un temps très critique de son existence. Et ça a pris du temps avant. Tu sais, l'onction, ça ne part pas comme ça. Ça arrive fiou, d'un coup, mais ça ne part pas vite. On a passé beaucoup de temps sur la montagne, puis finalement, on est redescendu. Et le lendemain, on avait notre baptême d'eau dans les eaux du Jourdain, en Israël. Et puis, là, c'est toujours mon ami Michael Gerstmann, que peut-être vous connaissez, qui est un pasteur juif messianique, qui autrefois était pasteur à Montréal de l'église Lion of Judah, qui maintenant vit en Israël une bonne partie de l'année à Tibériade, qui fait toujours nos baptêmes d'eau. Et puis le soir, on le garde à l'hôtel pour qu'il nous donne une conférence, parce que c'est un homme tellement intéressant et tellement connaissant dans la culture juive, parce que lui-même, c'est un juif messianique. Alors, on l'a gardé ce soir-là, et lorsqu'il a donné le message le soir, c'était exactement la même chose que nous avions ressenti la veille à Megiddo. C'était vraiment très fort, très, très puissant. Et même on l'a enregistré, je ne pensais pas qu'on l'avait enregistré ce soir-là, mais quelqu'un l'avait enregistré avec son cellulaire, puis la qualité était assez bonne, puis on l'a placé sur un des coffrets DVD, je pense que c'est le coffret sur le voyage justement en Israël. Le troisième, c'est un CD du message de Michael Gerstmann qu'il nous a donné ce soir-là. Mais c'était en ligne avec l'onction qu'on avait ressenti la veille à Megiddo. Et ce qu'on ressentait, c'est justement que le temps était arrivé où Israël, malheureusement, va faire face à un temps très difficile, un moment critique de son histoire. Puis, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce qui va arriver avec cette étreinte lunaire, mais il y a quelque chose qui va arriver qui touche Israël. Surveillons ces dates, surveillons ce qui va arriver cette année, l'année prochaine, jusqu'en 2016. Il y a quelque chose d'important au point de vue prophétique qui va arriver, qui va se produire. Parce qu'écoute, en terminant, c'est que, tu sais, quand Jésus est venu, je vous ai expliqué ce matin, il est venu d'abord chez les siens pour vous mettre dans la situation, ceux qui peut-être n'étaient pas ici ce matin. La Bible dit que le roi est venu une première fois, il y a 2000 ans passés. Il est venu pour se présenter comme roi à Israël. Il a été rejeté. Le royaume est devenu spirituel jusqu'à présent. Et très bientôt, il va être manifesté de façon physique, littérale, parce que le roi de gloire va revenir. Mais quand le peuple juif a refusé son roi, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va déclarer ceci. Il va dire, « OK, désormais, vous ne me verrez plus. » Jusqu'à nouveau, vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que la première fois, il a été rejeté. Puis Jésus dit, OK, je n'en reviendrai pas, tant que vous ne direz pas, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Et comme vous savez sans doute, la majorité des gens en Israël aujourd'hui ne croient même pas en Dieu. Alors encore moins que Jésus était le Messie. Mais Jésus dit, je n'en reviendrai pas tant qu'ils ne déclareront pas que je suis le Messie, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Et il y a un autre prophète dans l'Ancien Testament, et c'est ce que le Seigneur nous a montré à Megiddo au mois d'avril dernier, lorsque cette onction est tombée sur nous. C'est dans Osée chapitre 5 et le verset 15, où le prophète de la part de Dieu va dire ceci à Israël. C'est comme si le Seigneur dit, « OK, je suis venu, vous m'avez rejeté, je retourne dans ma maison, là-haut dans le ciel, et je ne reviendrai pas tant et aussi longtemps que vous ne vous avouerez pas coupable. Coupable de l'avoir rejeté. » Et comme je vous dis, en Israël présentement, ils sont très loin de s'avouer coupable d'avoir rejeté Jésus comme leur Messie. Parce que la plupart ne croient même pas en Dieu, encore moins dans le Messie, Yeshua, Jésus-Christ. Mais le prophète ajoute ceci, « Lorsqu'ils seront dans la détresse, ils crieront vers moi. » Ça veut dire que ce n'est pas que Dieu se plaît à envoyer de la détresse, mais c'est le seul moyen pour ramener son peuple. C'est comme si Dieu est obligé de les acculer au pied du mur pour qu'ils crient vers lui, parce qu'autrement, ils ne crieront jamais vers lui. Juste une petite parenthèse. Lorsqu'on a fait le premier voyage en Israël, c'était vraiment excitant pour chacun de nous parce que c'était la première fois qu'on visitait la Terre Sainte. Puis j'avais un grand groupe de 75 personnes avec moi. Et puis, à un moment donné, on est à la mer Morte. Puis à la mer Morte, je ne sais pas si vous savez, vous êtes le point le plus bas de la planète. C'est le plus bas niveau sur toute la Terre. C'est pourquoi c'est comme un tonique aller à la mer Morte, parce que c'est un calmant naturel pour les nerfs. Tu ne peux même pas attraper de coups de soleil à la mer Morte, parce que tu es tellement bas sur la planète que les rayons ne t'affectent pas, et c'est un calmant naturel. Même il y a un article qui a passé dans Time Magazine il y a plusieurs années, conseillait aux gens nerveux, les gens en dépression, allez donc faire un tour à la mer Morte, ça va vous calmer les nerfs. Puis c'est vrai parce que souvent on faisait la mer Morte l'après-midi, puis on revenait sur Jérusalem le soir, puis je vous garantis que c'était tranquille dans l'autobus après s'être baigné toute l'après-midi à la mer Morte. Le monde était calme. Il rentrait à Jérusalem dans le calme. Mais on est à la mer Morte, puis vous savez, vous pouvez vous faire flotter. Vous flottez à la mer Morte. Tu ne peux pas caler. Même si tu es beaucoup pesant, tu ne caleras jamais parce qu'il y a 33,1% de minéraux du ciel et toutes sortes d'autres minéraux. C'est impossible de caler à la mer Morte. Alors, j'ai un frère du groupe qui se fait flotter à la mer Morte, puis il est à côté d'un juif qui lui aussi se fait flotter, puis il est en train de lire un journal hébreu. Il parlait anglais, ce monsieur-là. Alors, il dit au Juif, qui lui aussi parle anglais, il dit quelque chose comme, « Vous êtes vraiment bénis, vous autres, le peuple juif, parce que vous êtes le peuple de Dieu d'autrefois, puis vous connaissez Dieu, puis vous pouvez communiquer avec Dieu. » Puis, tu sais, il en mettait. Puis le monsieur juif se tourne vers lui et lui dit en anglais, il dit, « Mon Dieu à moi, c'est l'argent. » Vous auriez dû voir la face de notre frère qui venait avec nous. C'est comme pour lui, il venait de perdre ses illusions, sa naïveté, parce qu'il pensait que juste parce que tu es en Israël, tout le monde croit en Dieu, puis parce que tu es juif, tu crois en Dieu. Puis quand il lui a dit, mon Dieu à moi, c'est l'argent. My God, it's money. Oh là 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 là. Ben, c'est la situation pas mal qui prévaut en Israël. Puis il faut qu'il y ait un changement majeur. C'est pour ça, malheureusement, que quelque chose de difficile s'en vient pour Israël. Parce que tant qu'ils ne seront pas dans la détresse, comme dit le prophète Osée, ils ne crieront pas vers leur Messie. Et Dieu va permettre des choses qui ne sont pas très agréables pour sauver son peuple, pour qu'il crie vers lui et qu'il puisse finalement revenir. Mais la bonne nouvelle en terminant, je fais trois fois, je le dis, je vais finir par finir. Prenez courage. En terminant vraiment, pour nous, on n'a pas besoin d'être poussé au pied du mur. On n'a pas besoin d'être dans la détresse parce que des gens l'ont accepté comme notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Guérisseur, notre Baptiseur dans le Saint-Esprit. Il est notre tout. Alléluia! Et à cause de cela, on est ses bien-aimés. On est déjà dans le royaume de Dieu et nous attendons cette bienheureuse espérance, le son de cette trompette qui va nous changer dans un instant, dans un clin d'œil. Et on va quitter Granby. Alléluia! La province de Québec, le Canada, l'atmosphère, la stratosphère, toutes les sphères. Tchoum! Un clin d'œil. On est rendu dans la gloire de Dieu pour l'éternité avec lui. Alléluia! Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Oh! Gloire à Dieu! Ah, oh, le Seigneur est merveilleux pour nous. Merci, Seigneur, de t'être révélé à chacun de nous ce soir. Et vraiment, gardez vos yeux ouverts. Purifiez vos cœurs. S'il y a quelque chose à redresser dans votre vie, n'attendez pas. Faites-le maintenant. Parce que ces années-là, les quelques mois qui sont devant nous, 2014, 2015, c'est des années très importantes au point de vue prophétique. Puis il peut se passer beaucoup de choses. Et il peut se passer la chose que nous attendons surtout. Le glorieux son de trompette qui marque la fin de l'histoire de l'Église sur cette planète. Alléluia. Et ce que je voudrais faire ce soir, avant de terminer cette réunion, c'est deux choses. Premièrement, s'il y a des gens ici qui ne sont pas sauvés, vous n'êtes pas certain si vous êtes sauvé, ben vous pouvez être certain ce soir, parce que c'est la chose la plus facile au monde d'être sauvé. Simplement reconnaître qu'on est pécheur et accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et le miracle se fait, c'est lui qui fait le miracle. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Vous allez naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Et ça ne sera plus jamais du tout la même chose pour vous, parce que vous n'appartenez plus au royaume des ténèbres de ce monde. Vous appartenez désormais au royaume de Dieu. Et le miracle se fait juste dans un instant, lorsque votre cœur se convertit et vous dites, « Seigneur, j'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin d'être sauvé. » Et deuxièmement, je voudrais faire un appel pour tous ceux et celles qui ont pris à cœur les messages que vous avez entendus ce matin et ce soir, et vous dites, « Soit que j'ai quelque chose à ajuster dans ma vie. » Tu sais, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour briser la voix ou brouiller la voix. Tu sais, si tu vas sur un poste de radio, il faut que tu sois exactement au bon numéro. Si le poste de radio émet sur la bande fréquente 600 FM, tu es à 603. Vous savez comment il parle, le gars? Il y a des chrétiens comme ça, grincheux. Pas ici, j'en ai connu ailleurs. Écoute, tu as juste un petit ajustement à faire, tu t'en vas à 600. Et ça parle tellement clair ici, la radio 600. Peut-être qu'il y a juste un petit ajustement à faire ce soir, dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Faites-le maintenant, faites-le aujourd'hui, faites-le ce soir. Parce que les mois qui sont devant nous, il peut y avoir de grands bouleversements, de grands changements, parce que comme on a prêché ce soir, c'est une parole prophétique certaine. Ça ne peut pas mentir. C'est la parole de Dieu. Et à ma connaissance, tous les autres signes qui nous ont été donnés dans la Bible pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur sont accomplis. Ils sont déjà derrière nous. Alors, c'est impossible qu'il reste beaucoup, beaucoup d'années avant ce glorieux événement. Notre glorieuse espérance, c'est pour très bientôt, enfants de Dieu. Alors, je vais vous inviter dans quelques instants à vous avancer. Soit que vous dites, Seigneur, je me repens, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, puis votre vie, je vous le garantis, ne sera plus jamais la même, parce que ce n'est pas moi qui vais faire le miracle. Ce n'est pas les pasteurs de cette église qui vont le faire non plus. Ce n'est pas l'église elle-même, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui fait le miracle de la nouvelle naissance. Ou vous allez venir ce soir, puis vous dites, coupe de petit ajustement, puis je ne vais pas attendre la semaine prochaine. J'ai fait ce soir, ici même, pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Ou bien, troisièmement, vous n'avez aucun problème, c'est parfait dans votre vie, vous êtes glorieux, vous êtes dans la victoire par-dessus la terre, mais vous allez venir quand même pour encourager les autres, on va louer le Seigneur tous ensemble. Woo! Amen!
Je vais demander à notre frère Mascotte s'il voulait revenir. On a chanté la délivrance. Et il y a des personnes, peut-être par Internet ou à la radio aujourd'hui, peut-être même ici, des gens qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie et ils veulent passer de la mort à la vie. Avez-vous la solution pour nous?
Oui! J'ai la solution! La solution, c'est simple, c'est Jésus. Jésus est la solution. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un qui nous écoute par le truchement d'Internet, à la télévision, et vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, votre Roi à vous, c'est tellement simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se repentir, reconnaître notre besoin, reconnaître que nous sommes pécheurs et accepter le seul Sauveur disponible, le Seigneur Jésus-Christ. Et le miracle va se faire. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et ça, on ne peut pas l'acheter. Ça ne se vend pas dans les magasins. Ce n'est pas offert par les compagnies de ce monde. Il y a juste un endroit, notre cœur et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, peu importe où vous êtes, peut-être vous êtes à la maison, peut-être vous êtes dans un magasin, peut-être vous êtes dans un restaurant, peut-être vous êtes ici ce soir dans cette réunion. Il n'y a pas d'endroit inutile, il n'y a pas d'endroit où ce n'est pas possible. Parce que là où il y a un cœur, on peut se repentir et le Seigneur est toujours fidèle. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est la solution. S'il y a des gens qui sont captifs par de l'esclavage, par la drogue, l'alcool, peu importe ce qui vous lie dans votre vie, j'ai une autre bonne nouvelle. Ce même Jésus qui peut sauver, pardonner, il peut aussi libérer, il peut vous délivrer ce soir. Si vous criez à lui, si vous lui demandez, il a la puissance, il a le pouvoir de briser les chaînes qui nous retiennent captifs ce soir dans nos vies. Parce qu'il est le libérateur. Il n'est pas juste le sauveur, il est le libérateur. J'ai une autre bonne nouvelle. Si vous êtes malade, il est le grand guérisseur. Alléluia! Par ses meurtrissures, la Bible dit, nous avons été guéris. Et si nous crions vers lui, plaçons notre foi dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, nous pouvons recevoir la guérison divine. Alléluia! Parce qu'il n'est pas seulement le sauveur, il n'est pas seulement le libérateur, mais il est aussi le guérisseur. Alléluia! J'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Non seulement il peut sauver, non seulement il peut libérer, non seulement il peut nous guérir, il peut vous baptiser du Saint-Esprit parce qu'il est le baptiseur dans le Saint-Esprit. Si vous criez vers lui encore une fois, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia! C'est tellement une bonne nouvelle, Jésus, qu'on pourrait continuer pendant des heures ici à vous donner des bonnes nouvelles. Mais mettez-le à l'épreuve, acceptez-le dans votre vie, et vous allez voir pour vous-même, puis ça va être à votre tour de dire, j'ai une bonne nouvelle, vous allez parler de Jésus.
Donc, s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie, s'il y a quelqu'un qui peut juste, on peut juste pencher à nos têtes, s'il vous plaît, j'aimerais juste donner, ça se peut que c'est votre last call, comme on dit, pas au bord, là, last call, peut-être que vous êtes sorti de cette place et puis vous allez être transféré dans l'éternité. On ne connaît pas demain. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de Jésus le Seigneur de sa vie, j'aimerais vous donner l'opportunité en levant la main. S'il y a une personne et Dieu voit votre main. Amen. S'il y a quelqu'un ici une dernière fois et puis on va juste prier. J'aimerais maintenant, on va juste prier. Je vais vous demander tous de répéter après moi pour nos amis sur Internet. Vous savez, on reçoit des personnes qui disent « J'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie par Internet et à la radio. » Donc, j'aimerais ça vous demander comme si vous ne l'avez jamais prié auparavant. Faites-le avec vraiment foi et conviction. Répétez après moi. Père éternel, je viens devant toi. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour moi. Il a payé ma dette de péché et je le reçois dans ma vie. Je te demande de me pardonner, de me purifier. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez dit Amen avec nous, contactez-nous aujourd'hui à info@evqmedia.com et on va se réjouir avec vous parce que vous êtes passé de la mort à la vie.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec. Pour l'amour de la francophonie.